Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Lodève, il est 20h, c'est le bruit dans les feuilles. Je suis avec Martin,
bonsoir.
Tanguy,
bonsoir.
Yannick
et bonsoir.
Et moi-même Anna, bonsoir.
Ça y est, c'est parti.
C'est quoi ?
Mais qu'est-ce que c'est ?
Mais enfin, c'est du bruit dans les feuilles, l'émission de l'association Pays Arbres. Et ça se passe le troisième mercredi de chaque mois à 20h sur Radio Lodève.
Et oui, vous avez bien entendu, vous êtes sur Radio Lodève et c'est du bruit dans les feuilles. On est très heureux d'être là avec vous ce soir. Pour nous, on est un peu impressionnés, c'est une première. Et voilà, on avait très envie de prendre la parole et d'avoir cette porte ouverte sur la transmission. On est une association, on s'occupe d'arbres, comme son nom l'indique. Et plus largement, l'arbre, ça nous amène dans énormément de directions. Il y a plein de branches dans les arbres. Et Pays Arbres aussi, on a beaucoup de branches. Et on travaille beaucoup autour des fruits, des arbres, du patrimoine fruitier, à savoir les fruits qui sont là depuis longtemps sur notre territoire. Et puis aussi sur la ruralité plus globalement, parce que finalement, ces arbres, ils peuvent trouver place à maints endroits sur les territoires, aussi bien en forêt, hein, ça c'est sa place, on va dire, originelle. Mais l'arbre, ça fait longtemps qu'il est sorti de la forêt. Et nous, on ne vit pas en forêt. Mais par contre, on vit avec l'arbre à peu près dans tous nos espaces. Que vous alliez, même sur les parkings de supermarchés, vous avez des arbres aujourd'hui. Les arbres sont partout. Et nous, on les accompagne partout où ils sont. Parce qu'on les aime profondément. Voilà. Du coup, pour cette première émission, je me proposais d'abord de faire un petit tour de table. Et de présenter les différents protagonistes de cette aventure. Alors, l'équipe, évidemment, n'est pas complète. Hein. On est nombreux à Pays Arbres. Il y a de nombreux membres actifs. On est quatre aujourd'hui dans le studio de Radio Lodève. Et je vais faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter et vous dire un peu ce qu'il fait, ce qu'il aime et ce qui l'anime. Je propose de commencer par Anna.
Bonsoir. C'est donc moi, je m'appelle Anna et je suis... membre de Pays Arbres depuis un an et très heureuse d'être là et de pouvoir apporter ma graine à l'association. Moi, je suis dans les travaux agricoles. Je fais donc moi dans mon temps de travail, je m'occupe plus spécialement de la vigne. Je fais de la traction animale, donc je fais du labour avec des chevaux de trait dans nos vignes héroltaises et auprès des clients vignerons. Et je suis aujourd'hui surtout à Pays Arbres parce que c'est une association qui me plaît beaucoup, qui œuvre autour du patrimoine végétal et arboricole. Et heureuse d'apporter aussi mes faibles connaissances sur la vigne et les travaux avec les animaux, plus précisément. Aujourd'hui, voilà, j'aime bien aussi me rapprocher un peu plus du savoir et de la collecte des savoirs paysans.
Merci Anna pour ta présentation. On va continuer avec Martin.
Alors moi je m'appelle Martin, je suis pépiniériste, tout récemment installé à Saint-Étienne-de-Gourgas. Donc j'ai monté une petite pépinière fruitière en agriculture biologique et dont le but est de diffuser des vieilles variétés locales tant que faire se peut. Donc avec l'association on essaye de trouver des vieilles variétés locales, c'est pas toujours possible. Et sinon je produis des vieilles variétés dites nationales ou anciennes, tout du moins, de tous les fruitiers classiques. Et je vends des arbres à racines nues, comme avant, donc pas en pot, l'hiver. Voilà.
Merci Martin. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission de ta pépinière, parce que tu fais un travail, à mon avis, exemplaire, et je pense que c'est important de continuer à te présenter un peu plus tard. Et on est aussi avec Yannick.
Bien, bonsoir. Donc voilà, de métier, je suis paysagiste et arboriste grimpeur indépendant, ici sur Lodève, et j'ai suivi une première formation avec Éric Petiot, dont je reparlerai, parce que c'est vrai que ça a été une étape assez marquante, dans les soins au naturel, aux plantes et aux arbres de manière générale. Et donc du coup, c'est ce que je peux pratiquer dans mon métier et proposer autant dans les jardins privés que voilà, à plus large échelle pour autant des grands arbres que des petits arbres.
Merci Yannick. Quant à moi, je m'appelle Tanguy. Je suis depuis peu animateur officiel de l'association Pays Arbres. Et voilà, j'ai été un des moteurs de la fondation de cette association. Moi, j'ai fait une rencontre marquante dans ma vie. Il s'agit de Maurice Chaudière. Il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré ce monsieur et ça a vraiment changé ma vie. Les arbres aussi ont changé ma vie, le regard que j'ai porté sur eux. Et tout ça, ça me porte depuis 15 ans et aujourd'hui, j'ai un vrai désir de transmission. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ce soir avec vous à la radio et plus globalement de passer du temps à la transmission et à l'éducation à l'environnement et à accompagner les gens sur la vision qu'on peut avoir du territoire et des arbres.
Ça, c'est notre petite cloche qui annonce notre chronique L'Arbre du Mois et c'est présenté par Tanguy. On va savoir un peu plus sur le cormier.
Merci Anna. Anna, c'est un peu la maître du temps ce soir. Et du coup, quand vous entendrez la petite cloche, c'est qu'il est temps de passer à la chronique d'après. Voilà. Alors oui, on avait envie une fois par mois de faire une petite présentation d'un arbre de nos pays. Un arbre qui est fréquent au bord des chemins. Et du coup, je vais vous parler de cet arbre que j'ai choisi. Aujourd'hui, j'ai choisi le cormier. Alors avant de développer sur le cormier et de vous en dire plus, je voulais présenter le bouquin dans lequel je tire pas mal d'informations sur les arbres. C'est un des premiers livres que j'ai eu en main quand j'ai commencé à m'intéresser aux arbres. Et je trouve vraiment, pour moi, on rigole des fois, on dit c'est la Bible. Mais parce que c'est un livre qui est vraiment sympa, qui ne demande pas des connaissances botaniques et qui est très bien écrit. Il s'agit du livre des arbres, des arbustes et des arbrisseaux. Et c'est écrit par Pierre Liotagui. C'est édité chez Actes Sud et c'est un livre qu'il a commencé à écrire à la fin des années 60 et puis qu'il a réactualisé régulièrement. C'est un vrai pavé et franchement, c'est du bonheur de lire ce bouquin. Voilà, je vous le conseille vivement. Et du coup, aujourd'hui, dans certaines choses que je vais vous dire sur le cormier, il y en a certaines que j'ai tirées de ce livre. Alors voilà. Le cormier, il fait partie d'une grande famille qui est la famille des sorbiers et des alisiers. C'est un arbre qui vient spontanément dans les forêts quand on est dans de la reconquête naturelle et que les jeunes forêts se forment. Assez vite, il arrive pas dans les premiers, il a besoin d'un peu d'ombre et du coup, il bénéficie souvent de l'ombre des chênes verts, mais plus souvent des chênes blancs, le chêne pubescent pour les latinistes. Et cette demi-ombre, ça lui convient bien. Le sorbier, c'est un arbre important parce que c'est un arbre qui avait beaucoup d'usage du fait que son bois est un des plus précieux de nos essences locales. Voilà, dans les arbres champêtres. Et donc, c'est un arbre qui a beaucoup été coupé pour son bois et qui, finalement, s'est révélé être assez rare en début du XXe siècle. Et puis, aujourd'hui, il retrouve sa place dans la forêt spontanée méditerranéenne. Alors, pourquoi ? Moi, c'est un arbre que j'aime beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans une description botanique trop poussée, mais juste vous dire qu'il a des feuilles composées. Vous voyez, c'est un peu des feuilles où il y a plusieurs folioles à la manière du frêne. Il a des feuilles composées comme ça, avec 13 folioles. Il a un bois plutôt joli, qui prend un joli teint au polissage. Liotagui parle carrément d'aspect de marbre quand il est bien poli. Au nombre de ses usages, il servait beaucoup pour faire les pièces de machines où il y avait de la pression, quoi, comme les vis de pressoir qui étaient en bois. Et puis après, on faisait énormément de choses. Liotagui parle des crosses de fusil, des manches de couteau, des éléments de mécanisme des pianos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir accès à des bois précieux. Et c'est une des choses qu'on aimerait travailler, c'est un petit peu remettre sur pied une filière bois précieux méditerranéen. Parce que finalement, dans notre pays, le fait que les bois poussent très doucement, ça fait des bois qui ont des grosses densités, des densités importantes. Et ça permet d'avoir des bois pour les travaux et pour les menuisiers, pour les gens qui font des instruments de musique, tous ces bois ont une importance et c'est parfois difficile de trouver des belles pièces de bois. Voilà, les bûcherons aujourd'hui ne regardent plus du tout ces bois-là. Le seul sens qu'on a aujourd'hui du bois, c'est la stère de bois pour mettre dans le feu. Mais finalement, le bois, il a d'autres usages et il a des usages plus nobles, entre guillemets. Et le cormier est au nombre de ces arbres nobles. Et alors, une dernière chose que je voulais dire sur le cormier, je voulais vous parler de son fruit. Parce que moi, souvent, j'amène les gens promener dans les bois. Et souvent, je leur fais goûter les fruits. Alors, le fruit du cormier, il est très particulier parce qu'on ne peut pas le manger quand il est sur l'arbre. C'est-à-dire que c'est extrêmement astringent, ça assèche la bouche et c'est absolument impossible de l'avaler. Il y a un vieux proverbe qui disait « si vous voulez changer de sexe, il faut manger 7 à 9 cormes sans faire la grimace ». Alors, c'est pour vous dire un peu, mais c'est à mon avis impossible hein, de pas faire la grimace, je veux dire. Et par contre, ce fruit, une fois qu'il a blétti, alors le blétissement, c'est le moment où le fruit il noircit un peu, c'est-à-dire qu'il devient vraiment pas joli, et ben c'est justement là qu'on le mange. Hein, il y a certains de nos fruits, on est obligé d'attendre qu'ils blétissent pour les manger. Il y a la corme, dont je vous parle en ce moment, et il y a aussi, dans les plus connus, le kaki, et la nèfle d'Allemagne aussi, qui sont des fruits qu'on doit laisser sur un lit de paille quelque temps, hors gel, et qui vont prendre l'entièreté de leur goût quand ils auront un petit peu pourri. On parle de blétissement. Une dernière chose sur le cormier dont je voulais parler, c'est que ces fruits-là servaient beaucoup pour faire du vin, le vin de Corme, qu'on a appelé aussi le poirier, le curmi, qui était donc une boisson fermentée assez proche du cidre finalement, qu'on buvait avec intérêt. Il faut savoir que l'alcool a tenu une place importante dans nos pratiques paysannes. Le cœur du fruit aussi qu'on obtenait par distillation. Et du coup, le cormier, il a servi aussi bien pour faire un genre de cidre que des boissons fermentées passées à l'alambic. Voilà. Et un petit mot, donc, j'apprends ça en lisant toujours Lyotagui. On dit que les Romains appréciaient les cormes et ils les conservaient dans du vin cuit ou bien séché au soleil et en faisaient une boisson et du vinaigre. Voilà, c'était la présentation du cormier. Alors le mieux, c'est d'aller le voir dans les bois, hein, c'est là qu'il est bien. C'est vraiment un arbre singulier et moi je l'aime beaucoup. Il faut savoir qu'il vit très très longtemps, on parle de plusieurs siècles. Et même si on n'a pas d'individu de cet âge-là, j'en connais pas du moins, c'est intéressant. Vous pouvez aussi le greffer au jardin, ça va plus vite une fois qu'il est greffé sur poirier ou sur aubépine. Vous aurez plus vite des cormes, mais vous aurez un arbre qui vivra moins longtemps.
Merci Tanguy, c'est la petite cloche qui annonce la fin de cette chronique L'Arbre du Mois et on va passer donc à notre petite chronique de Martin, aujourd'hui présentée par Martin qui s'appelle Chasseur de bruit qu'on va entendre à chaque émission. Il s'agit d'un petit témoignage récolté dans nos campagnes.
Donc c'est un entretien que j'ai réalisé avec Raymonde qui habite à Saint-Étienne-de-Gourgas, une paysanne à la retraite. Et elle va nous raconter un peu son histoire, sa relation aux arbres et son histoire paysanne passée.
Bienvenue dans les feuilles, c'est joli ça.
Ouais. Et je cherche des informations sur la variété, la rouge de Gourgas.
La rouge de Gourgas. Il y en a une greffée là-bas. La pomme de Gourgas.
Il y avait une production de pommes de rougettes de Gourgas ici, pour oui, la vente ou...
Oui. Les prés de là-bas, il y avait des pommiers, des vergers, avec ces pommes. Je me souviens, moi, au champ des prés, c'était que des fruitiers. Et en saison de fruits, ça j'étais petite, hein, parce que je m'en rappelle à peine. En saison de fruits, ils employaient du personnel pour cueillir ces fruits quand ils se présentaient mûrs. Ce qui pousse bien ici en tant que pomme, c'est la passerose. Ces passerose, les premières sont un peu verboulues, mais les dernières que j'ai ramassées, elles sont saines. Alors je me dis, où est-ce que c'est la qualité qui résiste à l'attaque du ver? Où est-ce que c'est le papillon qui a la pomme qui a la peau un peu plus dure et il ne peut pas semer son œuf? Je sais pas.
Et on m'a aussi beaucoup parlé de la cerise de Gourgas.
Voilà. Alors, la cerise de Gourgas, il y en a un pied. Je connais que celui-là. Il y a le verger qu'on a fait planter. Et dans le mur, il reste ce cerisier dans le mur, c'est la cerise de Gourgas, qui a une longue queue. J'ai été à cueillir des fois entre la burla
et la vanne.
Alors ça, c'est la cerise de Gourgas. Encore, il reste celui-là. Je ne connais pas d'autre. En général, à cette époque-là, on préférait mettre un sauvage et greffer que d'acheter greffé comme on fait maintenant. Parce qu'on savait le plan qu'on mettait et le greffon qu'on met. J'attends un an de plus, 2 ans de plus. Moi, cette année, je n'ai pas eu la patience d'attendre. Le cerisier du fond était prêt à crever. J'ai dit, tu vas finir que tu n'auras pas de cerisier. Alors, j'ai commencé à faire le trou, le terrain était bien gras et tout. Et puis, j'ai planté mon cerisier. L'an dernier, j'avais planté le plaque minier, pareil. J'ai fait mon trou, et puis hop. Alors là, il me semble, tu sais, que j'ai créé quelque chose. Ah. J'ai simplement planté un arbre, ouais. Tout greffé en plus. Moi, j'ai aimé ma vie. Tu plantes, ça pousse. Les petits, hop, je les prenais avec moi. Je leur raconte des histoires qui s'entêtent ni que. Le petit lapin, le chasseur, le n'importe quoi. Après, quand ils ont été plus grands, les grands étaient partis, j'ai appris à tailler. Alors la joie que j'avais, tailler la souche, puis tu vois le raisin qui arrive, tu le fais à la cave, et à la fin, on n'avait plus de courtier, on allait le vendre chez les négociants. C'était intéressant.
Et tout le monde ici, c'était un village de viticulteurs, quoi. Tout le monde faisait la vigne.
Tout le monde faisait la vigne.
Et il n'y avait pas trop de troupeaux. Il y avait des brebis, des vaches.
Des brebis, des vaches. Et deux chevaux, en général. et on avait toujours une mère d'ouvrier ou un journalier, un ouvrier, un berger. Alors après, mes frères les ont arrêtés parce que nous étions des patrons, c'était pas par là, mais nous étions les domestiques de tout ce personnel qu'on nourrissait, qu'on logeait, qu'on lavait. Alors après, c'était tu es le patron, mais tu es le domestique de tes domestiques.
Eh oui.
Et c'était ça, hein.
Merci à Raymond pour ce témoignage qui, moi, me touche beaucoup. Alors, je retiens toujours cette phrase parce que je trouve que c'est la plus belle du témoignage quand elle dit « Moi, j'ai aimé ma vie. Tu plantes, ça pousse. » Alors, voilà, moi, c'est ce qui m'a touché le plus là-dedans. Mais après, on apprend plein de choses. On apprend que les arbres poussaient dans les murs, qu'on achetait rarement des arbres greffés, tout ça. Est-ce que ça vous évoque quelque chose d'avoir entendu Raymond ?
Moi, son témoignage me touche beaucoup parce que c'est une personne qui est relativement âgée, je ne connais pas exactement son âge, excuse-moi Raymond, mais qui plante encore des arbres. Et ça, je trouve ça magnifique. Ça veut dire qu'elle plante des arbres, elle sait que ça profitera à ses enfants, à ses petits-enfants, ou voire à ses arrière-petits-enfants. Je trouve ça vraiment touchant comme acte.
Ce que je trouve magnifique aussi dans ce qu'elle dit, c'est quand elle parle de planter son arbre et qu'elle elle considère ça comme un acte magnifique, et qu'elle a ses yeux émerveillés au moment où elle en parle, quoi. On sent que ça pétille, et voilà, et on sent qu'un arbre planté, bon, bah, il va déjà nous dépasser, il va durer un petit peu plus longtemps que nous et qu'il va servir probablement à d'autres.
Voilà, et donc du coup, on va essayer régulièrement d'aller pêcher, d'aller récolter des témoignages sur le territoire. D'une autre manière, si vous avez un arbre à vous présenter, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez nous en parler, c'est possible aussi. On donnera tous les contacts à la fin de l'émission. On cherche vraiment à faire quelque chose de participatif. Le bien commun, finalement, les arbres, c'est un bien commun parce que ça nous dépasse dans la durée. Et ce bien commun, nous, on y tient beaucoup. Et c'est un des thèmes sur lesquels on a envie d'insister dans cette émission. Du coup, n'hésitez pas, c'est un peu participatif, à nous faire part aussi de vos émotions ou bien à nous faire rencontrer votre aïeul ou vous-même parce que vous avez des choses à nous raconter sur comment vous vivez ce pays et cette région. On va faire une petite pause musicale avec Rissé Barrier qui nous parle des vieux aussi à sa manière.
Bougre de crétin, quand je te le disais, t'es bon à rien, je radote point, t'es plus mon fils, t'es pas digne. Quand t'étais petit, je m'en doutais ben, que t'étais crétin, mais pas au point de vendre la vigne. On ira plus dans la bouchture, où ce qui faisait bon aller se reposer. On n'ira plus dans la bouchure à regarder notre vigne pousser. Bougre de crétin, c'est le vieux qui te cause, tu comprends rien, te l'a vendu pour aller vivre à la ville. Tu rêves que de sous, comme t'es pas bête, t'en feras des sous, mais où que t'achèteras le soleil de ma vigne. On n'ira plus dans la bouchure où ce qu'on goûtait les raisins de l'été. T'es, le vin sera tendre, t'es, le vin sera dur. C'était beau, ça changeait chaque année. Tu dis plus rien, tu comprends point, que s'il n'y a plus de vigne, peut plus y avoir de famille. Faut vivre de son temps, aimer la terre, c'était de mon temps. Va-t'en faire le gommeux à la ville. Moi j'y retournerai dans ma bouchure, comme un voleur j'irai m'y cacher. Elle sera plus mienne, la vieille bouchure, mais j'irai revoir ma vigne se dorer. À toi, à moi, et continue de pousser. Allez. Eh ben, va-t'en donc.
Merci Rissé Barrier. C'était un sacré drill ce Rissé. Il a fait longtemps la voix de Saturnin, le petit canard. Pour les plus anciens, ça vous rappellera quelque chose. Voilà, je l'aime bien. Je voulais juste faire une précision, c'est-à-dire qu'on est porté sur le passé parce que je pense qu'il y a des choses importantes en termes de savoir à prendre de ce côté-là. Et du coup, c'est vrai qu'on a tout à fait une partie de notre regard qui est du côté de la mémoire et qui est du côté des anciens. A contrario, on est aussi pas mal porté sur l'avenir et sur ce qu'il va falloir relever comme défi pour nourrir les hommes au 21e siècle. Et du coup, on est pas mal tourné aussi vers l'agroécologie. Et justement, l'agroécologie, c'est un peu cette convergence entre savoir ancien et puis savoir moderne, et savoir comment la science et les pratiques ancestrales peuvent se rencontrer pour produire mieux et pour produire à moindre coût en termes d'intrants. Voilà, c'est un peu ça l'agroécologie, c'est cette rencontre entre la mémoire et la modernité finalement. Et ça nous intéresse beaucoup d'écouter les travaux qui vont dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on a d'un côté les yeux tournés vers le passé pour essayer d'y prendre ce qu'il y a à apprendre, et de l'autre dans les ouvrages les plus modernes pour se former et pour avancer vers une meilleure façon d'utiliser la terre pour nos enfants.
La chronique qui suit s'appelle « Le moment du verger » qui est aujourd'hui présenté par notre docteur arbre Yannick, qui est arboriste-grimpeur et paysagiste. Et ensuite par Martin, tous les deux qui vont nous présenter cette chronique sur la plantation.
Voilà, au fait c'est plantation et pulvérisation d'automne. Au fait qui va se faire au moment de la chute des feuilles, juste après. Et donc on va pouvoir faire un mélange avec différentes matières qui vont permettre de recouvrir les micro-plaies qui vont se faire au moment de la chute des feuilles, à chaque base de pétiole. Et qui plus est, vont pouvoir nourrir le tronc et préparer l'arbre pour la saison, juste avant qu'on puisse faire un badigeon un petit peu plus complet, mais qui se fera un petit peu plus tard dans l'année, avec de l'argile et d'autres matières, ce qui remplace un petit peu, dans ce que j'ai appris par Eric Petiot en l'occurrence, plus encore d'autres maintenant qui reprennent justement un petit peu ces savoirs qui se sont diffusés pour le coup, pour remplacer un petit peu le badigeon à la chaux. Voilà. Donc, pour pulvériser le tronc et les branches, ce que je vais utiliser, 10 litres d'eau de pluie, donc pour faire une bouillie d'à peu près 10 litres, on va dire. Donc, je prends 10 litres d'eau de pluie ou d'eau de source. Si on n'a pas cette matière-là à disposition, on peut prendre 10 litres d'eau du robinet. Sachant qu'il y a le chlore dedans, on va le laisser au minimum 24 à 36 heures dans une bassine ouverte pour que tout le chlore et certaines matières puissent au moins s'évaporer. Avec ça, je vais mettre du purin d'ortie, enfin ce que j'appelle plutôt de l'extrait fermenté d'ortie, que je ne fais pas moi-même, je l'achète chez une personne qui fait ça très très bien, comme ça demande un petit peu de savoir, et que dans les nouvelles recettes, on n'est plus vraiment sur les recettes de purin d'ortie de nos grands-parents, où on laissait pourrir la plante, mais on va plutôt la faire fermenter, donc ça c'est toute une recette. Donc justement, je mets un petit peu de purin d'ortie, donc un demi-litre pour 10 litres d'eau. Je vais rajouter soit 20 grammes de bouillie bordelaise, ou éventuellement ce que j'utilise pour remplacer la bouillie bordelaise, j'utilise ce qu'on appelle du cuivrol. Donc voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est un nom de marque, je dois bien le dire, mais il n'y a pas d'autre définition pour parler de ça. Le cuivrol, c'est utilisé en agriculture biologique, et donc c'est du cuivre, mais avec des oligoéléments. Donc on est aussi sur un principe nourricier, et pas que fongicide. Donc si je mets du cuivrol, c'est 10 grammes. Un peu de miel bio, donc 10 grammes aussi, parce que le miel, ça a aussi la vertu de nourrir la plante. Sachant qu'une plante, même sans feuilles, sur le tronc, va pouvoir accéder à une nourriture qui va être mise sur le tronc, par des petites parties, des lenticelles, voilà, le tronc, l'écorce communique avec l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur, par certaines petites zones qu'on pourra appeler des pores de la peau. Donc si on met une matière nourricière sur un tronc, ça va quand même rentrer dans l'arbre. Donc un petit peu de miel, parce que voilà, c'est attesté et prouvé que ça renforce la plante. De l'huile de paraffine, donc là j'en mets 20 centilitres, je redonnerai la recette complète à la fin. De l'huile de paraffine, parce que c'est aussi quelque chose qui va être relativement biodégradable, donc c'est la seule chose qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu limite, issue du pétrole, mais en revanche, ça va pouvoir permettre d'étouffer, premièrement, certaines formes hivernantes qui vont d'insectes ou de spores de champignons qui vont venir s'abriter dans les rides de l'écorce.
et un peu de savon noir qui va agir comme mouillant et également aussi comme matière pour étouffer un petit peu de ça, quoi. Donc je redonne juste la recette en vite fait, comme j'ai pas mal dispersé. 10 litres d'eau de pluie, 1 demi-litre de puits en d'ortie, 20 g de bouillie bordelaise ou 10 g de cuivrole, 10 g de miel, 20 centilitres d'huile de paraffine et dans le mélange le tout 3% de savon noir. Donc ça veut dire à peu près 30 centilitres de savon noir. Voilà. Et donc maintenant c'est Martin qui va nous parler de la plantation.
Et donc voilà, on est fin novembre bientôt et c'est le moment de réfléchir à ces plantations d'hiver pour planter des végétaux à racines nues, que ce soit des arbres fruitiers ou des arbres d'ornement ou des fruits rouges. Donc c'est le moment d'y réfléchir à la place qu'on a, de peut-être préparer les emplacements. On peut commencer pas forcément à faire le trou, mais à détruire l'herbe s'il y a de l'herbe, ou alors poser une bâche pour détruire l'herbe. Enfin, commencer à préparer son chantier de plantation. On peut commencer à accumuler des matières pour pailler ses futures plantations, acheter des piquets, et puis commencer à se renseigner sur quelle variété et quel arbre on veut planter.
Merci beaucoup Yannick, merci Martin pour cette chronique Le Moment du Verger. Et on va passer maintenant à le dicton du mois qui dit « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Alors ça m'interpelle. Tanguy, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est vraiment vrai ces dictons par rapport à ces jours précis? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il en est de ce dicton?
Ben on reste un peu dans les mêmes thématiques. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et nous, on soutient. Enfin, je veux dire, des fois, on va vous présenter des dictons et on va dire, ben non, ça, c'est pas vrai. Mais à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. On le constate, c'est une évidence. À savoir, finalement, c'est le meilleur moment pour planter vos arbres. Parce que plus vous allez les planter tôt, et plus, quand vous allez arriver au printemps, votre petit arbre, il aura déjà développé du racinaire. Donc, on est toujours dans la même thématique, la plantation, parce que c'est le moment auquel il faut y penser. On peut voir aussi les histoires de boutures. C'est un très bon moment pour prélever des boutures et les mettre en terre. C'est un moment où le bois va faire de la racine parce qu'il est occupé qu'à ça. Il n'a plus du tout la masse feuillère qui l'occupe en hauteur. Par contre, dans le sol, ça continue à vivre. Ça vit tout l'hiver. Les racines s'accroissent tout l'hiver. Et du coup, planter le plus tôt possible à l'automne, c'est vraiment un gage de réussite pour vos futures plantations au verger. Et tant qu'on est dans cette thématique de plantation, et j'en avais parlé en début d'émission, j'avais envie un petit peu que tu, Martin, qui est avec nous, on a cette chance, il est pépiniériste, que tu nous parles un petit peu de ton mode de production et de ce qui t'a emmené à faire une pépinière. Est-ce qu'on peut un peu développer là-dessus? Qu'est-ce que c'est pour toi le meilleur arbre à planter? Comment on choisit son arbre pour planter? Qu'est-ce qu'on doit acheter? Est-ce qu'on doit aller acheter l'arbre qui est en grande surface? Ou est-ce que tout se ressemble? Est-ce que tous les arbres sont pareils? Qu'est-ce qu'on plante?
Bah alors la première chose, c'est déjà savoir quel fruit on va manger, en premier, la place dont on dispose. Ça, c'est important pour le choix de l'arbre. Après, c'est vrai que dans le différent choix d'arbres qui est disponible, on va dire, sur le marché de l'arbre, c'est vrai que moi, je déconseille fortement d'acheter des arbres en pot, la première chose. Parce que c'est des arbres qui ont un passé assez trouble ou traumatisé, on va dire. C'est des arbres qui ont vécu très longtemps en pot, qui ont parfois végété dans des jardineries, qui n'ont pas forcément été très bien soignés. Et voilà. Alors moi, ce que je produis, du coup, c'est des arbres à racines nues. C'est des arbres qui sont cultivés en pleine terre, donc ils ne profitent pas du tout de la même nutrition que dans un pot. C'est beaucoup plus naturel, entre guillemets, c'est à l'ancienne, mais c'est pas tant à l'ancienne que ça, il y a encore beaucoup de pépinières qui fonctionnent comme ça. Donc moi, ma particularité, c'est que j'essaye de produire la plupart de mes porte-greffes. Donc le porte-greffe, c'est la partie racinaire de l'arbre. Ça m'est venu, en fait, tu me demandais comment ça m'était venu. C'est que voilà, moi je fais du jardin, des légumes, tout ça, et un jour je me suis mis à essayer de semer des arbres, pour voir, comme ça. Ça me paraissait être quelque chose de très spécial pour les spécialistes. Il y avait quelque chose de magique, de compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très simple. Que des pépins, on les sème, mais c'est comme des graines de salade ou de radis, bah, ça pousse. Sauf qu'à la place de faire des légumes, ça fait des arbres. Et là, je suis rentré dans une certaine magie, quoi. J'ai dit, waouh, je peux faire des petites forêts dans mon petit carré de jardin. Donc j'ai commencé à en faire pour moi, comme ça. Et puis très vite, m'est venue l'idée d'en faire mon métier. Aussi parce que je pense que c'est nécessaire de produire des arbres qui vont être rustiques et qui vont être adaptés au climat local. Donc voilà, donc moi je produis une grande partie de mes porte-grèves, donc ça veut dire que je vais récolter des semences sur des fruits. Donc je vais extraire des pépins de pommes, des pépins de poire, je vais nettoyer des noyaux de prunes, je vais nettoyer des noyaux de pêche, des noyaux de cerises, des noyaux de Sainte-Lucie, c'est un cerisier sauvage, des noix, tout ça, des amandes que je vais stratifier et que je vais semer, que je vais créer mes propres porte-greffes en fait. Donc je vais les cultiver pendant un an, voire deux ans avant de les greffer. Donc ça rajoute un peu de temps à la production de fruitiers, quoi. C'est vrai que c'est une démarche qui a un peu disparu chez les pépiniéristes. On en profite pour noter que le mot pépiniériste vient du mot pépin. Et que c'est bien pour ça qu'un pépiniériste, normalement, sème. Et c'est pas pour tirer sur les autres pépiniéristes, mais c'est une question aussi économique. Hein. Ça rajoute du travail, c'est du temps. Et donc, c'est pas pour rien que ça a été abandonné. C'est que c'est un truc compliqué. Mais c'est vrai que, du coup, on produit des arbres plus adaptés au climat local.
Une dernière chose, tu peux nous dire comment elle s'appelle, ta pépinière, s'il y a des gens que ça intéresse?
Ma pépinière s'appelle la pépinière de la Brèze. Donc c'est la Brèze, c'est la rivière qui passe à Saint-Étienne-de-Gourgas et à Soubès, B-R-E-Z-E. Donc il y a un site internet, pépinière-de-la-brèze.fr. Voilà, je suis disponible à partir de la fin novembre, à partir de la Sainte-Catherine justement, pour vous vendre des arbres de variétés locales et anciennes à racines nues. Et c'est ouvert le vendredi et le samedi après-midi de 14 à 18h. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet.
Merci à toi.
Merci Martin, merci beaucoup pour cette présentation de ta pépinière. Et justement, après les contacts, nous aussi, on vous donne le contact de Paysarbre, parce qu'on parle, mais on ne vous dit pas comment nous joindre. C'est surtout par mail que vous pouvez nous joindre au mail paysarbre@mailou.org. Ça s'écrit pays au singulier et arbre au singulier tout attaché @mailou.org. Et Tanguy va nous présenter le calendrier du mois et des événements à venir.
On va rester encore une fois dans le thème de la plantation, hein, c'est le thème du mois de novembre. Juste vous indiquer qu'il y a deux foires là qui vont se tenir bientôt où vous pourrez rencontrer des pépiniéristes talentueux du sud de la France qui font un joli boulot sur les variétés anciennes. Vous allez pouvoir les rejoindre dans une fête qui est devenue une institution. C'est la fête de l'arbre à Saint-Jean-du-Gard. Ça, c'est au plus près de la Sainte-Catherine. C'est le dernier week-end de novembre, le 26 et le 27 à Saint-Jean-du-Gard. C'est pas si loin, ça fait une petite balade en Cévennes, c'est sympathique. Et puis la semaine d'après, le 4 décembre, une nouvelle fête de l'arbre dans l'Aude à La Grasse, à laquelle celle-là on participera avec un petit stand de notre association. Vous retrouverez beaucoup des pépiniéristes qui sont à Saint-Jean-du-Gard à la fête de l'arbre de La Grasse, c'est le 4 décembre dans l'Aude. Voilà, ça c'est pour l'actualité générale, pour aller trouver des arbres à planter. Et on reste encore dans le même thème pour vous annoncer que nous, on va faire une petite journée sur justement savoir bien planter un arbre. On va vous donner des petits trucs pour pas rater ses plantations, parce que finalement, un arbre, ça demande du soin. Comme c'est long, on a souvent tendance à l'abandonner au fond dans le jardin, dans la pelouse, et puis de plus y penser en se disant qu'il faut attendre 10 ans. En fait, c'est pas mal d'aller le voir de temps en temps et de l'accompagner, même si c'est des petits gestes. On fait un petit point là-dessus. On fait une journée de formation autour de savoir planter son arbre. Ça, c'est le 11 décembre à La Vacquerie sur le Causse. Bonjour à tous les amis du plateau. C'est là-bas qu'on se retrouvera ce 11 décembre. C'est bien de réserver pour ces journées techniques parce que nous, on a besoin de savoir combien vous êtes et de savoir qui vient pour préparer un peu le terrain. Voilà, merci beaucoup de votre écoute attentive. C'était Du Bruit dans les Feuilles, on va se quitter avec un petit morceau de musique. Avant ça, je voudrais saluer tous les gens qui m'accompagnent dans cette aventure, saluer aussi toute l'équipe de Radio Lodève qui nous accueille avec bonheur et joie, vous remercier vous de votre écoute attentive et vous dire au mois prochain pour la deuxième édition de Du Bruit dans les Feuilles. On se quitte avec un morceau de Pierre Perret qui s'appelle « Donnez-nous des jardins ».
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, Mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien. Comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y'a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient les petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles, le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe aux choux. Et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas ça correct. Quelle vie merveilleuse, loin des marteaux piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins pleins d'animaux marrants, ça nous changerait un peu nos parents.
Donnez-nous des jardins.